Chapitre 13. Quel est ton nom? Le Chountouk ne répondit pas. En as-tu seulement un? Tes semblables en portent-ils? Toujours rien. Richard croisa les mains et baissa les yeux sur le demi-humain. Pas de nom, pas d'âme?
Nous aurons une âme,
dit l'homme d'une voix vibrante de haine. Richard comprit qu'il avait touché un point sensible.
« Vos âmes, bientôt toutes nous appartiendront. »«
C'est absurde. On ne vole pas l'âme d'une personne en la dévorant. Pour en avoir une, il n'y a qu'un moyen. » L'homme plissa le front à un signe d'intérêt, mais il n'alla pas jusqu'à poser la question qui lui brûlait pourtant les lèvres. « Pour avoir une âme, » dit enfin Richard, « et il faut être né avec. C'est un présent qu'on reçoit en venant au monde. Une part de lui-même qui relie un être à tout ce qui existe en cet univers et dans le suivant, comme l'illustrent les lignes qui composent la grâce. C'est le lien entre un être et la vie. Bonne ou mauvaise, malveillante ou cruelle, et qu'il veuille d'elle ou non, l'âme d'un individu fait partie de lui dès l'instant où il accède à la vie, et elle l'accompagne jusque dans le royaume des morts. D'une manière très fondamentale, c'est la somme de tout ce qu'il est, son essence en même temps que sa vérité profonde. Il ne peut pas y renoncer, ni la perdre, et encore moins se la faire voler. L'âme est inséparable de son propriétaire. Même s'il n'en veut plus, il ne peut pas s'en débarrasser. Le Chountouk eut un rictus.
Si c'était vrai, comment expliquerais-tu l'existence des demi-humains?
Vous êtes né sans âme?
Pas à l'origine. Au début, nous entrions dans la vie avec une âme, exactement comme vous. Mais on nous l'a volée pour que nous devenions des armes, des tueurs sans pitié.
C'est vrai, mais ça remonte à des milliers d'années, une époque où les sorciers de Sulakan disposaient de pouvoirs que nous sommes incapables de simplement imaginer.
Quoi qu'il en soit, ils ont volé des âmes à leurs propriétaires.
Richard désigna le sud en direction de l'ancien monde, jadis l'empire de Sulakan. Sulakan a violé les lois les plus saintes de la vie. Il n'a pas simplement collecté des âmes, il lui a fallu l'aide de sorciers très puissants et totalement pervertis. Privés de leur âme, les premiers demi-humains furent dans l'incapacité d'en transmettre une à leurs descendants. Comme ils étaient coupés de la grâce, leurs fils et leurs filles naquirent sans âme et engendrèrent des enfants qui n'en avaient pas non plus. Si Sulakan avait accepté de la leur rendre, les premiers demi-humains auraient pu revenir en possession de leur âme. Mais ils sont morts depuis des lustres, et leurs descendants, comme toi, ne pourront jamais se procurer une âme par quelque moyen que ce soit, parce que aucune n'est à eux.
Quand les gens qui en ont une meurent, dit le prisonnier, l'âme déserte le corps et commence son long voyage vers le royaume des morts. Les dépouilles qui pourrissent dans la terre n'ont plus d'âme, tu en conviendras. C'est donc qu'une âme peut bien être séparée de son enveloppe charnelle.
L'âme quitte un défunt afin de traverser le voile, oui. C'est ce qu'illustre la grâce.
Nous capturons l'âme en dévorant le corps avant qu'elle ait abandonné. Quand la chair encore chaude est en nous, alors que l'âme l'habite encore, il suffit d'attendre, et au moment de la séparation, l'âme n'a pas d'autre choix que de rester en nous, et de se lier à nous puisque nous sommes vivants. Ayant trouvé un nouvel hôte, elle devient sa propriété.
Kalan échangea un regard troublé avec Zed. C'était la théorie la plus délirante qu'elle ait jamais entendue.
« C'est faux !»
dit Richard. « L'âme, qui est l'essence d'une personne, ne part pas en quête d'un nouvel hôte, comme tu dis. Ça ne se passe pas ainsi. Quand un être meurt, son âme, partie prenante de la chaîne éternelle du don, suit les signes de la grâce tirés depuis l'étincelle de la création et traverse le voile pour entrer dans le royaume des morts.
À condition que nous ne la capturions pas avant.
Richard dévisagea le prisonnier sans montrer à quel point cette simple idée le révoltait.
C'est une illusion. L'âme d'une autre personne ne pourrait pas vivre en toi. Après la mort de son propriétaire, elle doit gagner le royaume des morts. Il n'y a pas d'autre possibilité.
Nous nous approprierons vos âmes,
lança l'homme avec la foi aveugle des fanatiques. Même si Callan aurait su dire très précisément ce qu'était une âme, elle savait d'expérience que la raison chez un fanatique était remplacée par une série de croyances aveugles qu'il ne mettait jamais en question. C'était exactement ça qui rendait si dangereux les tenants de théories aberrantes présentées comme des vérités révélées. Autour de ce qu'ils pensaient être une âme, les demi-humains avaient bâti tout un système philosophique qui pouvait passer pour raisonnable si on oubliait qu'ils reposaient sur du vent. Prenant leur désir pour la réalité, ils produisaient un discours d'une inattaquable logique, susceptible de convaincre des esprits bien plus équilibrés que les leurs, mais manquant des connaissances requises pour réduire à néant les constructions fantaisistes de ce genre. Parce qu'ils désiraient que les choses soient ainsi, les demi-humains croyaient que c'était le cas. Étaient-ils incapables de se rendre à la raison parce qu'ils n'étaient pas complètement humains? D'apparence, ils ressemblaient aux gens normaux, mais ce n'était qu'une illusion. Privés d'une âme, ils étaient plus proches des animaux en un sens, avec l'intelligence limitée mais redoutable des prédateurs. Quand ils avaient faim, ils chassaient, et quand ils se languissaient d'une âme, ils chassaient aussi. Le désir de satisfaire des besoins primaires. Avant de reprendre la parole, Richard dévisagea longuement le prisonnier.
Connais-tu un seul de tes semblables qui se soit approprié une âme en dévorant son propriétaire? Ce que tu décris est-il arrivé une seule fois? En as-tu la preuve?
Le Shuntuk hésita un moment.
Je n'ai pas encore vu ça de mes yeux.
Il releva un peu la tête, mais pas assez pour que le couteau de Pfister entame sa peau.
« Sinon, j'aurais bondi sur l'homme ayant réussi cet exploit, et je l'aurais dévoré pour lui voler cette âme. Il m'en faut une, j'y ai droit. »«
Qui t'a envoyé ?»
demanda brusquement Richard. Des nuits passées à discuter de ses croyances absurdes n'auraient avancé à rien. L'homme bomba le torse.
Notre roi et empereur, le grand Sulakan. Il est revenu du royaume des morts, son âme en tout cas. Tu es le messager de la mort, et c'est ton sang qui l'a ramené. J'étais là et j'ai tout vu. Si je n'arrive pas à me procurer une âme, l'empereur nous aidera tous à devenir complets.
Richard croisa les bras. Et comment s'y prendra-t-il, selon toi?
« Il est le roi spectral !»
répondit l'homme comme si ça voulait tout dire. Voyant que Richard le regardait intensément, il développa un peu.
« Il peut relier les mondes. Il l'a prouvé en revenant du royaume des morts. À présent que son esprit est de retour dans le monde des vivants, il va unifier les deux univers, n'en faisant plus qu'un. » Le voile ne séparera plus le monde des vivants du royaume des morts, et quand ce sera fait, je serai complet.
Pourquoi donc?
Dans le monde des vivants, il faut une âme pour être complet. Et quand l'existence s'achève, cette âme traverse le voile pour aller dans le royaume des morts.
Le Shuntuk se tut comme s'il pensait en avoir assez dit.
Je vois ce que tu veux dire. Fit Richard. En l'état actuel des choses, tu ne peux pas rejoindre le royaume des morts après ton décès parce que tu n'as pas d'âme pour t'y conduire. Sans ce bien précieux, impossible de traverser le voile. La mort signifie alors la fin de tout.
L'homme répondit après une assez longue hésitation.
C'est justement pour ça que je dois avoir une âme.
Ceux qui en ont une en naissant sont chanceux. Les demi-humains méritent d'avoir la même chance.
Donc, tu penses avoir le droit de tuer des gens pour leur voler leur âme?
Bien sûr. Quand on a besoin de quelque chose, il faut s'en emparer.
Callan comprit qu'elle avait vu juste. Ces créatures n'étaient pas humaines.
Manquant d'une âme, elles ignoraient jusqu'au sens du mot compassion. Se fichant de leur victime, les demi-humains n'éprouvaient aucun remords. Pour ça, ils auraient dû avoir une âme. Tels des prédateurs, ils n'avaient aucun sentiment pour leur proie, exactement comme un loup qui vient d'égorger un cerf. À présent, l'inquisitrice devinait derrière le désir pervers de voler une âme un dessein bien plus vaste et complexe. Les Shuntuk ne cherchaient pas simplement à combler un vide. S'ils désiraient une âme, c'était pour pouvoir faire ce qui était l'apanage des humains, aller dans le royaume des morts après leur trépas. Sans âme, ils n'avaient pas accès à l'éternité. Car c'était dans le royaume des morts et non dans le monde des vivants que le temps ne finissait jamais. Terrorisés à l'idée de cesser d'exister, les demi-humains s'étaient forgé une doctrine affirmant qu'ils pourraient un jour continuer à exister dans le royaume des morts sous la chaude et douce lumière de la création. Littéralement, ils vénéraient la mort parce qu'elle leur semblait un sort infiniment préférable à la vie. En un sens, ils étaient lancés dans une quête mystique. Sans âme, pas de survie après la mort. Sans âme, périr revenait à être définitivement soufflé comme la flamme d'une bougie. Pour les demi-humains, la perspective de vivre à jamais parmi les esprits du bien n'existait pas, sauf s'ils se procuraient une âme, accédant ainsi à l'immortalité. Kalan éprouva une sorte de compassion pour ces êtres, vite modérée par le fait qu'ils n'hésitaient pas à tuer pour arriver à leur fin. Même si elle savait que Richard ne voulait pas qu'elle intervienne afin de ne pas attirer sur elle l'attention du prisonnier, l'inquisitrice ne put se retenir. « Sulaka ne pourra pas te donner une âme, » dit-elle, « et si tu n'as pas en toi cette étincelle de don, il lui sera impossible de t'emmener dans le royaume des morts. Tu es lié à ce monde jusqu'à la fin de tes jours. » En toi, il n'y a rien que ton roi puisse conduire de l'autre côté du voile. Après ta mort, il ne te sera d'aucun secours. Pourquoi lui es-tu fidèle? Qu'attends-tu de lui?
Quand il aura réuni le monde des vivants et le royaume des morts, avoir une âme ne sera plus utile. La mort ne sera plus une fin pour mon peuple et moi. Quand les gens comme toi meurent, leur âme part traverser le voile. En ce sens, vous avez l'aptitude de relier les deux mondes. N'ayant pas d'âme, ça nous est impossible. Mais quand les deux univers n'en feront plus qu'un, nous serons en même temps dans les deux. Mes semblables et moi n'aurons alors plus rien à craindre de la mort. Tout appartiendra à la grâce dans un seul et même monde. Quand ces temps seront venus, Sulaka nous a promis que nous serons tous complets. À ce moment-là, je n'aurai plus besoin d'une âme pour aller dans le royaume des morts, puisque j'y serai déjà, plus de voile à traverser. Lorsque l'univers tout entier sera à l'image du troisième royaume, où la vie et la mort coexistent au même endroit et en même temps, Sulakan régnera jusqu'à la fin des temps, et nous serons ses enfants chéris.
Une déclaration troublante. Sulaka étant revenu du royaume des morts après 3000 ans, l'idée n'était peut-être pas aussi aberrante qu'elle le paraissait. En tout cas aux yeux de l'empereur et des demi-humains. Kalan ne croyait pas aux chances de réussite de ce projet de fou, mais ça n'enlevait rien à la conviction de ces gens. Le sang de Richard avait permis de ramener l'esprit de Sulaka de son mortel séjour. Une idée très perturbante. Mais pas tant que ça comparé au reste. Car si on en jugeait par l'étendue de ses pouvoirs, l'empereur mort, s'il avait peu de chances de réaliser son plan, risquait bien de détruire le monde des vivants en essayant. Ainsi, il ne resterait bel et bien qu'un monde, mort et désert.